Le handicap aujourd'hui. Une émission proposée par Radio Plus avec le soutien de la Fondation de France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde émission du handicap aujourd'hui en direct sur Radio Plus en FM et en DAB+.
Avec nous pour animer cette émission, Jean-Philippe Planck également à la réalisation et Julien Maille,
ainsi que Christophe Pasquier.
Dans ce numéro, nous parlerons du handisport et du sport adapté à travers différentes interviews et témoignages. Comment se déroule la pratique du sport lorsqu'on possède un handicap physique et ou mental, et dans quelle mesure est-elle possible dans la région? C'est ce que nous allons voir avec nos différents invités. Annie Ponchel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du comité départemental de sport adapté du Pas-de-Calais. Vous êtes accompagnée de Christelle Langham. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professionnelle travaillant en foyer de vie et vous êtes également accompagnée de Mathias Croquelois. Bonjour.
Bonjour.
Et vous pratiquez justement l'athlétisme dans un club tout à fait classique. Avec nous également Nicolas Merfil. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes athlète de haut niveau en situation de handicap dans différentes disciplines, le lancer de poids et de disque, mais également le volley assis, et vous avez participé à une course en faveur de l'association Ensemble pour Noémie. C'était dimanche dernier. On reviendra sur votre parcours et sur les actions que vous menez avec d'autres associations. Également présent, Emmanuel Joly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le papa d'Elena et de Mathéo. Vous êtes président d'honneur de l'association Les Gardiens de la Licorne qui s'occupe d'enfants atteints de handicap et de maladies congénitales. Et on invoquera avec vous notamment le cas de Mathéo qui est autiste et qui a intégré un club de sport récemment, un club de Kempo, je crois.
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Et alors avant de retrouver, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite pause musicale. Nous devrions avoir d'ici quelques instants, Cathy à l'antenne de Radio Plus. Ce sera donc d'ici quelques instants après ce morceau de Valou Noémie.
Te plains pour Noémie, pour un garçon, pour une envie, tes bonheurs et tes soucis. Un jour tu pleures, un jour tu ris, moi suis inerte dans mon lit. Pourquoi suis-je encore en vie? À quoi rime cette ineptie? J'aimerais tant pouvoir comme toi simplement bouger un bras, courir, manger du chocolat.
Je m'appelle Noémie, j'ai vraiment une drôle de vie, si l'on peut appeler ça ainsi.
Toutes mes souffrances, je ne connais pas les joies de l'enfance. Même si comme toi mes parents m'aiment, moi je leur pose un dilemme. J'aimerais tant leur dire je t'aime, je ne pourrais jamais dire cela. La parole, je ne l'ai pas. Une gifle pour un gros mot serait sans doute un cadeau. Et toi lorsque tu pleures pour rien, moi je repense à mon destin. Pourquoi suis-je venu au monde? La réponse Moi je reste dans les nuages, dans mon monde si tu préfères, que l'on peut appeler calvaire. Tu réagis au son, au bruit, seul un rictus vous le dit. Si l'on me touche, je casse. Pendant ce temps, les années passent. Je sens les rayons du soleil et de vos cœurs qui m'émerveillent. Je remercie ma famille, autour de moi ce que j'en vis. Entre mon lit et l'hôpital, ils savent qu'un jour sera fatal. Tu t'appelles Noémie, on te d'être en vie, car simplement d'un instant, notre vie prend un vrai sens. Tu t'appelles Noémie, rassemble la vraie amitié, les vraies valeurs en accouplé. On est fiers de t'aider.
Le handicap aujourd'hui.
Retour sur cette émission spéciale handicap avec un témoignage. On propose un parcours d'une maman qui se prénomme Cathy et qui a eu un petit garçon, Louis, le 23 juin 2003. Il est né à Jeanne de Flandre, à Lille. Depuis l'âge de 2 ans, il va chez l'orthophoniste. Louis a commencé à parler à l'âge de 3 ans et demi. Il a fait 2 années de CLIS. Alors le CLIS, c'est une classe pour l'inclusion scolaire à l'école Varé de Violaine. Ensuite, Louis est parti à l'IME, Institut Médico-Éducatif Van Rulen de Béthune, pendant 3 ans. Et maintenant, il est en IMP. IMP, Institut Médico-Pédagogique à Anzin. Louis a été déclaré autiste Asperger en février 2011 par une grande psychologue de Lille. Bonjour Cathy.
Oui, bonjour. Alors, déjà un petit, je me suis trompée sur la date de naissance de Louis, en écrivant dessus, il est né le 26 juin 2003.
Eh oui, bon,
bien
voilà.
Sûr, à Jeanne de Flandre.
Oui.
La CLIS, maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut la CLIS, c'est, maintenant on appelle ça une ULIS, et c'est l'école barrée, mais en ULIS, on met n'importe quel handicap. On peut retrouver du trisomique, des enfants qui sont dyslexiques et dysorthographiques, on peut retrouver de l'autisme. C'est une classe avec des enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans, peut-être 13, 14 ans, mais on a tout handicap. Voilà, pour les petits conseils.
Très bien. Alors, je vous remercie de témoigner en direct sur Radio Plus. Alors, une question, on a parlé de l'autisme Asperger. Qu'est-ce que c'est que cet autisme ?
Alors l'autisme Asperger, ça s'appelle ça, c'est plutôt Asperger. C'est Asperger. C'est un enfant qui a un QI qui est, parce que une personne normale comme vous et moi, on a un QI de 95, 110, 115 maximum. Louis a un QI de 145. Donc à l'âge de 7 ans et 7 mois, il a été évalué avec un QI de 145.
Mm-hmm. Alors voilà. Votre enfant...
C'est un petit génie qui on peut voir encore à la télé que le docteur qui peut faire quelque chose de super. Il y a un monsieur aussi qui, je sais plus son nom, qui sait parler 8 langues. Il peut faire plein de choses, mais c'est un enfant où le mien, il fait beaucoup de dessins, mais c'est un enfant comme les autres. Il a un énorme QI, mais il y a beaucoup d'handicaps qu'il n'a pas réussi à mettre. Vous le mettez dans une foule entre 1000 personnes, et ben, vous allez le voir se recroqueviller sur lui-même, partir en crise, parce que il va pas savoir gérer son stress. Et toute sa vie est faite comme ça.
Très bien. Donc, alors, votre enfant autiste semble aujourd'hui avoir trouvé une activité stable, mais pour en arriver là, pouvez-vous nous parler des difficultés que vous avez rencontrées, car son autisme a été détecté seulement en 2011, lorsque Louis avait 8 ans. Alors, est-ce que ça a été un parcours d'une combattante surtout, qui est, c'est vous, la maman?
L'école déjà, pour trouver une école qui veut bien me le prendre. Alors pareil, Il y a un soir, je travaillais, mon mari est pompier, donc il pouvait pas, il avait intervenu pendant la nuit, donc il pouvait pas le prendre le matin de bonne heure en disant, je leur avais demandé, mettez-le à la cantine, parce que mon mari n'a pas dormi de la nuit. Il peut pas gérer le petit, ils ont pas voulu. Il a fallu que je trouve une personne parce que Louis ne mangeait pas avec des couverts.
D'accord.
Parce que, voilà, ça y est, il a 4 ans, il a 5 ans, il ne mangeait pas avec des couverts, il mangeait avec ses doigts. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas le mettre à part, faire un petit geste? Non, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu.
D'accord.
Ils n'ont pas voulu.
Un manque d'accompagnement.
Ça a toujours été un combat. Maintenant, les entrées, il a eu une période où il avait une AVS. Si l'AVS n'était pas là, il n'avait pas d'école.
D'accord, ok.
Le problème, il est là aussi. Voilà. On n'intègre pas l'enfant s'il n'a pas son AVS. Mmh. Et pour avoir une AVS, c'est un parcours du combattant.
Tout à fait.
Quand vous avez parlé de l'IME Van Rulen, l'IME Van Rulen a été fermée. C'est un super IME, un superbe. Il y avait beaucoup de locaux super très jolis, très jolis. Mais il a été fermé parce que le gouvernement a décidé. On n'en a pas entendu beaucoup parler, mais ils ont donné moins de financement. Donc les IME, il y en a certains qui ont fermé. Donc ce IME-là est fermé. Donc à partir de là, il a été muté en IME Pro. Mmh. Il fallait bien le mettre quelque part.
Très bien. Avez-vous l'impression que la société aujourd'hui vous accompagne dans le bon sens ou pensez-vous qu'il y a un manque de structure justement dans la région des Hauts-de-France ?
Ah, il y a un manque de structure, c'est sûr et certain. Tout le monde vous le dira. Tout le monde vous le dira. Il y a plein d'enfants qui sont. Nous, on a trouvé parce que une fois qu'il est rentré dans un cursus de IME, ils sont dans l'obligation de le garder.
D'accord.
Jusqu'à 20 ans, avoir 21. 21, c'est une dérogation. 20 ans, si à 20 ans, on n'a pas de dérogation pour 21 ans, s'il n'est pas en CAT pour travailler ou s'il n'a pas trouvé d'autre travail handicapé, eh ben, il nous sera redonné gentiment la maison et ça sera débrouillez-vous avec. On n'en fait plus rien. Voilà. Ça sera encore nous qui serons livrés à avec notre enfant, tout simplement.
Alors aujourd'hui, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est le sport et le handicap. Alors j'ai une question à vous poser, est-ce que Louis fait du sport ?
Alors Louis fait de la piscine, énormément. Mmh. Alors moi, Louis, j'ai eu un maître nageur qui s'appelle Yves, qui m'a ouvert l'ancienne piscine de Beuvry, qui me l'a ouvert tous les dimanches, rien que pour lui. Et Louis, il a mis 6 mois pour lui apprendre à nager, c'était un maître nageur. 6 mois, donc pendant 6 mois, il a pratiquement fait que hurler. Et le jour où Yves a trouvé le moyen, donc il a beaucoup regardé YouTube, beaucoup d'émissions et tout, il a mis un gros ballon dans l'eau. Et le jour où il a mis le gros ballon dans l'eau, ça a été fini. Louis, il fallait qu'il pousse le ballon jusqu'au bout du bassin et vice versa. Et là, Louis s'est nagé mieux que moi. Donc, par contre, vous voyez, l'équitation, il en a fait avec l'école. L'équitation, il n'aime pas les chevaux parce que ça sent mauvais. Ça peut paraître bizarre. Hein. Mmh. Il n'aime pas la bête, il n'aime pas l'odeur du cheval. Donc pour lui, il ne fera jamais de cheval, il n'aime pas ça. Mais c'est parce qu'il a quelque chose qui ne lui convient pas, il n'aime pas l'odeur du cheval, il n'en fait pas. Mais par contre, la piscine, j'y vais quand je veux, c'est super bien nagé.
Alors Cathy, j'ai une question à vous poser aussi par rapport à des messages. Est-ce que vous avez un message à passer aux parents qui ont un enfant autiste ou qui viennent de se rendre compte via la psychologue ou le médecin que leur enfant avait un handicap ? Quel type de conseils vous pouvez apporter aux jeunes parents, justement ?
Ne pas baisser les bras. Enfin, moi, je sais que je suis sur Facebook et je suis sur de plusieurs associations sur Facebook. Je suis toujours là à donner des conseils. Regardez là-haut. Regardez, même si parents IME, laissez votre fils avoir la chance de partir en IME. C'est peut-être ce qui lui convient, parce que c'est vrai qu'au départ, on aimerait les garder dans un cursus normal. Ça ne leur convient pas. D'abord, il n'y a pas d'école pour les autistes, donc il faut bien se dire ça. Laissez leur chance à essayer autre chose, et quand ils trouvent leur voie, ils verront que leur enfant est épanoui et que c'est que du bonheur. Malgré que là, il en IME Pro, il est épanoui, tout va bien, mais il y a des jours, c'est comme chaque enfant, hein. Tous les jours, maman, ça n'a pas été, qui est-ce qu'un enfant, même nous, hein, dans notre travail, hein, et un jour ça va bien, des jours ça va pas, et eux, c'est pareil. Donc il faut leur donner toutes les chances du monde et surtout ne pas perdre espoir. Et moi je leur dis aux parents, ne perdez pas espoir, peut-être qu'un jour ça arrivera, parce qu'il y a d'enfants autistes qui ne parlent pas, peut-être qu'un jour ça arrivera. Le mien, le premier mot qu'il a dit, c'est crabe et crocodile, et je sais très bien qu'il parlait déjà avant, parce que pour sortir le mot crabe et crocodile, c'était très très compliqué. C'est pas papa, maman, c'est des grosses syllabes. Donc je suis sûre que Louis parlait déjà avant. Donc il faut garder espoir. Mais c'est vrai que l'espoir, c'est dur à des fois on a du mal à... Donc c'est bien aussi des fois de se mettre dans des bah sur Facebook. Moi je sais qu'à chaque fois qu'il y a une maman qui perd un peu pied, je me remets une petite tartine. Il y a des mamans aussi qui m'appellent de temps en temps pour leur monter parce que des fois avec deux, on est plus forte à deux que toute seule, quoi.
Bien
on
sûr.
On est plus fort à deux que toute seule.
Et on est même plus fort voilà. Ensemble avec des associations.
Ah, bien sûr.
Vous avez parlé tout bien à l'heure de l'association Francis Perrin. Elle vous a permis de trouver des solutions et d'avancer également?
Bah, elle m'a surtout permis de trouver la psychologue qui l'a diagnostiqué Asperger. Après, je n'ai pas recontacté l'association, mais c'est vrai que le fait qu'elle m'a permis de trouver quelqu'un pour diagnostiquer mon fils, parce qu'il est en attente au CRA de l'os, et il y a une sacrée attente au CRA de l'os, et surtout au CRA de l'os, je vais dire aux parents, ceux qui s'attendent leur bilan, leur diagnostic. Vous avez un bilan, vous avez un diagnostic, mais vous n'avez pas rien à côté. Ils vont vous dire, bah, votre enfant, oui, il est autiste, il a besoin d'ergothérapeute, il a besoin de psychothérapeute, il a besoin d'orthophoniste. Et puis, ils vont vous dire, bah, débrouillez-vous, cherchez, et bon courage. Bonne journée, au revoir. Donc, vous voyez, même si on n'est pas aidé, ils vont pas nous donner une liste en disant, bah, voilà, les professionnels sont là, sinon, c'est à nous à chercher. Et ça, je leur ai même dit, mais dans ces cas-là, je m'en doutais que mon gamin était autiste Asperger, je le savais, donc ils m'ont rien appris.
D'accord.
J'avais juste un papier officiel qui disait, bah votre fils est comme ça. Oui, bah je le savais déjà, ça fait depuis qu'il est comme ça, donc oui, je le savais. J'avais lu des livres, je m'étais renseignée, donc forcément je le savais. On avait un papier officiel, mais à partir de là, on vous laisse encore livrer à nous-mêmes. C'est pas eux qui vont vous dire, bah il y a des écoles, cette école là, ça serait bien pour Louis, cette école là, ça irait. Non, 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 c'est voilà, c'est on se débrouille, se débrouille et le courage il est là.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup Cathy pour votre témoignage, qui, je le souhaite en tout cas, a pu apporter des renseignements et puis aussi des conseils aux parents, aux grands-parents aussi, et puis aux personnes qui sont autistes, qui découvrent aussi les soucis au quotidien. Merci pour votre témoignage et puis à bientôt. Au revoir Cathy et bon courage pour la suite.
À bientôt, merci bien. Au revoir.
Le handicap aujourd'hui.
Des réactions par rapport au témoignage de Cathy, qui veut se lancer. Oui, Emmanuel.
Je suis assez d'accord concernant le désarroi de cette dame, parce que lorsqu'on a un enfant autiste Asperger, et notamment c'est mon cas, on est totalement livré à nous-mêmes en fait. C'est atroce de voir à quel point on se sent seul. Que ce soit au niveau des professionnels ou même de notre vie sociale en fait, hein, parce que tout est régi par les frustrations, les crises de notre enfant, et je comprends bien qu'elle soit son désarroi. Moi, j'ai la chance que Mathéo soit en parcours normal d'école pour l'instant. Il a une AVS, il a une école avec du personnel très humain, donc qui a très bien compris la problématique et qui s'occupe très bien de Mathéo. Maintenant, on a eu d'autres expériences avec une école précédente dans la même ville, qui sont éloignées de quoi, 800 mètres, où c'était extrêmement difficile. Hein. Dès qu'ils ont entendu autiste, ils ont entendu débile. Hein. Donc c'était, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est contagieux? Donc voilà. Donc je compatis à son parcours.
Très bien, d'autres réactions par rapport à ça? Pas de réaction? Si, peut-être Nicolas.
Bonjour à tous. Je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'amalgame au niveau du handicap. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut reconnaître, il faut admettre les choses, le handicap, la difficulté des gens à se mouvoir dans le monde, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, sportif, au jour le jour. Et effectivement, les institutions sont pas là. Aucune institution, aujourd'hui, vient en aide à ses parents. Moi, j'ai ma voisine, pareil, qui est handicapée. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est livré à lui-même. Et ça, c'est intolérable. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est complètement intolérable et inadmissible.
Très bien. Alors, on va rentrer à présent dans ce sujet. On va vous donner quelques chiffres hein, sur la pratique du handisport et du sport adapté. Hein. La saison dernière, on dénombrait près de 33 800 licenciés et plus de 60 000 pratiquants en handisport et plus de 40 000 en sport adapté. Alors, ce sont des chiffres qui concernent la France entière. Julien ?
Oui, on a également des chiffres bien sûr pour notre région, puisque chez nous, on dénombre environ 1600 sportifs en situation de handicap, et par conséquent qui ont une licence auprès de la Fédération Française Handisport. Ça représente environ 600 sportifs dans le Pas-de-Calais, et 1000 environ dans le Nord, avec, vous l'imaginez, un fort poids de sportifs au sein de la métropole lilloise. Et bien sûr, ajoutons à cela, dans le cadre de la région des Hauts-de-France, les chiffres pour la Picardie, qui représente 1000 licenciés sur les trois départements. Alors il faut savoir que la fusion des comités handisport au niveau de en parallèle de la fusion des régions, elle n'est pas terminée, mais à terme ça représentera environ 2500 handisportifs licenciés qui défendront les couleurs des Hauts-de-France dans les compétitions handisport. Ces chiffres nous viennent de Patrick Guminski, président du comité handisport du Pas-de-Calais, qui nous précise également que la région Nord-Pas-de-Calais représente, je cite, un potentiel intéressant en termes de nombre de sportifs par rapport à de nombreuses autres régions.
Annie Ponchel, vous aviez un doute sur les chiffres qu'on a communiqués?
Oui, nationalement, on est à 65 000 licenciés.
65 000, oui. Alors, on a fait, effectivement, pour tout vous avouer, on avait également, j'avais également un doute sur le chiffre.
Voilà.
Du coup, merci d'avoir rectifié. Alors,
Je peux vous donner ceux de notre région Hauts-de-France, qui sont ceux de l'année dernière. On a 5100 licenciés, 130 licenciés au niveau de la région Hauts-de-France. En ce qui concerne le Pas-de-Calais, on est à 1280 licenciés et on a un taux de pénétration par rapport aux places. C'est difficile de connaître la population totale handicapée, estimée handicapée dans les départements. Donc, nous sommes basés sur les places offertes en institution, de la jeunesse à l'âge adulte. Mmh. Et on a un taux de pénétration à peu près de 10% dans notre domaine du sport adapté.
Très bien. Et puis donc les chiffres, on les a communiqués au niveau du handisport. Hein. Je vais vous parler d'une autre étude. Hein. Il y a deux ans, la Fondation de la Française des Jeux a mené une enquête inédite sur le sport et le handicap auprès d'un panel de Français en situation de handicap moteur, visuel ou auditif. Principal résultat, 70% des personnes affirment être intéressées par la pratique sportive. Pour 31% des personnes interrogées, l'activité sportive permet de limiter les effets du handicap. Cependant, 56% des personnes interrogées déclarent avoir été limitées dans leur pratique sportive à cause de leur situation de handicap, voire même d'arrêter le sport pour 49% d'entre elles pour la même raison. Toujours d'après cette étude, concernant cette fois le handicap mental, la pratique du sport serait un élément secondaire pour les associations qui ont en charge des personnes en situation de handicap mental. Une affirmation qui sera sans doute démentie tout à l'heure par certains de nos invités. Alors, des réactions déjà par rapport à ces chiffres ?
Oui, moi je voudrais revenir, est-ce que tout le monde se fait bien la part des choses entre handisport et sport adapté ?
Mais on allait vous poser la question, mais je vous en prie, répondez.
Oui, anticipez la question, n'hésitez pas, on vous écoute Mme Ponchel.
Non, parce que je sais qu'il y a une grande confusion, on met bientôt, très souvent sous le terme du handisport, tout ce qui est sport handicapé, mais handisport s'occupe des personnes qui ont un problème moteur ou sensoriel, tandis que le sport adapté s'occupe des personnes déficientes intellectuelles ou atteintes de troubles psychiques. Donc ceci étant, parce que après quand on va parler d'accessibilité, on n'a pas tout à fait les mêmes vues sur l'accessibilité, donc on y reviendra peut-être plus tard dans le coup.
Très bien. Et alors justement, vous parliez de l'accessibilité, l'étude pointe du doigt également l'inaccessibilité, alors ça peut être pris au sens large, hein, l'inaccessibilité des infrastructures sportives pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, bon, je vous dis justement, il y a deux... Enfin, accessibilité pour une personne qui est handicapée motrice, ce sera plus l'adaptation des locaux. Oui. Tandis que nous, en termes de nos sportifs, ce sera plus en termes d'accompagnement. Parce que, bon, se mouvoir, en général, il y arrive très facilement. Mais ce sera le terme de l'accompagnement de la personne qui ne saura pas se rendre seule à tel endroit, etc. Donc, c'est tout à fait sur d'autres... un autre plan que ça se situe.
Oui, ben justement, ça me permet de rebondir. Je vais poser la question de manière un petit peu polémique, mais est-ce que justement l'inaccessibilité, pardon, c'est seulement un manque de rampe pour les fauteuils roulants, par exemple ? Non, je vois déjà réagir Nicolas Marfil.
Oui, absolument, parce qu'en fait, l'accessibilité, donc on parle de rampe, etc., pour arriver jusqu'en dans les locaux, mais il y a pas que ça. Quand vous êtes resté 6 heures dehors à faire du sport, je pense que la douche, elle s'impose. Tous les locaux ne sont pas prêts à réceptionner des personnes en situation de handicap. Donc, bien sûr, on ne fait pas l'amalgame entre le handicap moteur et le sport adapté. Après, effectivement, pour vous citer un exemple, j'ai la chance de pouvoir continuer à évoluer en faisant du sport de haut niveau. Ce qui est très compliqué, je suis obligé de me déplacer jusqu'à Villeneuve-d'Ascq.
Alors expliquez-nous ce cheminement pour aller donc de Hénin-Beaumont, puisque vous êtes originaire d'Hénin-Beaumont, jusqu'à Villeneuve-d'Ascq.
Voilà, donc je suis licencié là-bas à la CVA, donc à Villeneuve-d'Ascq. Et tout au départ, au début de ma reprise du sport, aucune structure pouvait m'accueillir, que ce soit sur Hénin-Beaumont, sur Douai, etc. Par rapport justement à la mobilité que ça pouvait générer par rapport à mon handicap. Alors j'ai eu la chance, pour ma part, d'être soutenu par ma commune, parce qu'ils m'ont construit une aire de lancer pour éviter les déplacements, parce que c'est très fatigant quand on est handicapé moteur. Et ils me laissent tout le loisir de pouvoir accéder à la salle de sport, à la salle de musculation, à la piscine à Hénin-Beaumont. Mais tout reste encore à faire. Quand je me déplace là-bas, je suis obligé de me déplacer une partie avec le fauteuil, une partie avec des béquilles. Et il y a des jours où je peux pas y aller parce que les gens me le suivent pas. Donc et ça, je pense que c'est de prime abord dans toutes les communes de France et de Navarre. Donc je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est bien de vouloir resociabiliser tout le monde à travers le sport, mais il faut donner les moyens. Derrière, il faut donner les moyens. Alors il y a des communes qui jouent jeu, comme Hénin-Beaumont qui fait énormément de choses pour moi. Mais je suis sûr que dans le département, il y a plein de gens qui restent cloîtrés chez eux parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir de pouvoir aller faire du sport, se re-sociabiliser. Et puis il y a un fait évident aussi quand on est handicapé, c'est qu'à un moment, tout s'arrête. Tout s'arrête. Pour ma part, je suis pompier professionnel, je suis un ancien militaire, j'étais déjà sportif de bon niveau en rugby. Le jour où je me suis retrouvé en fauteuil roulant, c'était direction le canapé et attendre que ça se passe. Et c'est le sport qui fait que je suis là aujourd'hui, qui fait que je peux me targuer de pouvoir me remobiliser à travers les sponsors qui me prêtent les véhicules comme e-box, à travers la mairie qui m'aide en me prêtant leurs installations sportives. Sans tout ça, si les collectivités locales, autres, ne jouent pas le jeu, je suis persuadé qu'on pourrait doubler le chiffre des sportifs en e-sport, parce qu'il y en a plein qui restent chez eux en se disant, mais on peut pas, d'une, il y a un peu de honte, il y a un peu de difficulté, et effectivement, la frustration qui sort de tout ça fait que je suis persuadé qu'il y a plein de gens là qui sont en train de nous écouter et qui se disent, oui, mais je ne peux pas parce que j'ai pas l'accessibilité.
Alors, Nicolas Marfil, on va revenir sur votre parcours tout à l'heure, puisque vous avez aussi pas mal de choses à dire aussi au niveau pratique sportive, et puis une particularité chez vous qu'on expliquera tout à l'heure aux auditeurs et aux auditrices. Je voudrais me tourner vers les autres invités. Est-ce que, comme l'a souligné tout à l'heure Annie Pronchet, d'après vous, il y a également un manque d'encadrants formés dans les clubs sportifs, dans les structures qui sont censées accueillir de futurs sportifs en situation de handicap?
Bah oui, tout à fait.
Christelle, oui.
Quand on est en structure, je veux dire, on n'a pas d'éducateurs sportifs spécialement à la structure. Donc souvent, ce sont des éducateurs, on fait appel à des éducateurs sportifs, extérieurs. Ensuite, nous, on a la chance de pouvoir travailler aussi avec des personnes extérieures, mais à la fois aussi dans les communes. Donc, nos usagers peuvent participer à différents sports dans différentes communes de la région. Mais sinon, en structure, effectivement, on n'a pas d'éducateur qui est formé au sport pour pouvoir accompagner nos usagers.
Alors, la baisse de 6% du budget du ministère des Sports, est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous concernant l'handicap?
Enfin, pour nous, en tant que comité départemental, très certainement. Parce que d'abord, on ne sait pas où on va. Enfin, le budget va bientôt être présenté officiellement, mais pour l'instant, on ne sait pas du tout où on va. Ça va peut-être remettre en cause, et ça remet déjà en cause des emplois. Donc, pour nous, c'est une grande inquiétude. Il y a une pétition en ce moment qui circule, j'en profite, sur le site du Comité National Olympique, et j'invite tout le monde à la signer vis-à-vis de ce programme budgétaire qui va être présenté.
Il y a donc déjà des conséquences pour vous
Nous, comité, disons qu'on touche le milieu du handicap. Donc on est encore un petit peu préservé, mais notre subvention d'État a quand même bien baissé de 10 à 15% cette année. Donc c'est quand même un souci. Il faut avoir, disons, un petit peu d'arrière pour pouvoir protéger. On a un emploi au comité et il faut protéger notre salarié.
Donc effectivement, des conséquences surtout sur les emplois, on l'imagine, cette baisse des budgets.
Ouais.
Voilà.
Alors la pratique du sport à domicile serait la solution privilégiée par les personnes en situation de handicap, toujours d'après l'étude sport et handicap de la Fondation de la Française des Jeux. Est-ce que c'est aussi votre constat sur le terrain ou dans votre pratique? Nicolas, vous n'êtes pas d'accord?
Comme je disais tout à l'heure, le fait de remettre quelqu'un avec quelque handicap que ce soit au sport, c'est aussi le côté humain. C'est la rencontre, c'est l'échange. C'est ce qu'il y a de plus important. Après, la performance, effectivement, tout le monde n'est pas fait comme pour les valides, tout le monde n'est pas fait pour le sport de performance. Mais à travers ça, effectivement, si on reste cloîtré chez soi pour faire du sport, alors je pense que ça, c'est encore de la poudre aux yeux, parce que quelqu'un qui est tout seul chez lui, à moins d'avoir un gros mental et de préparer des échéances de compétition nationale ou internationale, va se donner les moyens de s'entraîner chez lui. La personne lambda va préférer regarder la télé. Donc elle va se renfermer encore une fois de plus sur elle-même.
Mathias ?
Je rapproche le micro.
Oui. Allez-y.
Est-ce que vous pratiquez aussi justement
en
dehors du club ?
Bah, tout d'abord, je vais commencer par me présenter.
Oui.
Bon, à tous ceux qui me connaissent tous plus ou moins... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathias Croquelois. Je suis résident actuellement depuis bientôt 5 ans déjà, au foyer de Ville-Glycine de Grenay. Bah, les activités qu'on y pratique tous indifféremment, moi y compris, sont quelque peu polyvalentes. Ce qui est une sorte de reflet de l'éclectisme pratiqué par notre structure. Et en ce qui me concerne, je fais de l'athlétisme au stade Roland-Courat à Liévin depuis 3 ans. Mais pour ne pas me sentir compartimenté, entre guillemets, dans la catégorie toute simple du sprint, je fais aussi quelques tours de terrain pour me calmer. Parce que je sais qu'au final, le sprint n'est pas uniquement qu'un bénéfice corporel pour aller très vite. Mais je me dis que ce n'est pas ce qui me calmera le plus aisément. Je fais quelques tours de terrain, 10 en une heure ou deux.
D'accord. Alors Christelle, je me tourne aussi vers vous. Est-ce que, justement, dans le cadre Mathias, pardon, qui pratique en club, est-ce qu'il a aussi au sein de la structure la possibilité de s'entraîner? Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un petit terrain sur lequel il pourrait courir pour se calmer ou pour s'entraîner comme il vient de nous le dire?
Alors, s'entraîner, courir, non.
D'accord.
Par contre, bon, la structure, on a quand même un joli parc où il peut sortir s'il a besoin de prendre d'air. Mais c'est vrai, autour de chez nous, on n'a pas de parc où il peut aller s'entraîner seul s'il veut persévérer dans ses performances.
Ouais. D'accord. Alors, Nicolas, je rebondis sur ce que vous disiez sur justement la pratique du sport à domicile. Qu'est-ce qui peut motiver, du coup, une personne en situation de handicap à pratiquer plutôt à domicile, comparé à une structure ?
Après, tout dépend de ce que la personne recherche. Je pense que l'intérêt qu'on donne à travers la pratique du sport, elle est différente chez tout à chacun. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas persuadé. Alors, est-ce que c'est de la poudre aux yeux pour dire c'est bien, restez chez vous, comme ça on n'a pas besoin d'investir dans l'ouverture des stades à tout public? Ça, je saurais pas vous le dire. Hein. Je suis pas à mettre des chiffres et encore moins à la place des décideurs. Mais je pense sincèrement que au-delà du sport de haut niveau, quand on a la chance de pouvoir encore se bouger un minimum, c'est vraiment l'échange et d'aller vers les autres. Donc rien de tel, comme le disait la maman tout à l'heure, de pouvoir aller à la piscine, de pouvoir à parcourir quelques foulées, comme le disait le coéquipier sportif tout à l'heure, sur un stade, rien de plus beau. Courir autour du frigo, je pense qu'on en a vite fait le tour. à faire quelques pompes à la maison, quelques abdos, c'est bien, mais ça reste de l'entretien. Je pense que le sport va avec le mental va avec l'allant vers les gens. Et c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout dont on en a besoin en France pour les personnes en situation de handicap, c'est d'être reconnu d'une certaine manière dans toutes les catégories, de pouvoir se mouvoir partout. Quand je vois, voilà, moi je fais 1m88, je fais 103 kilos. Quand j'ai une petite dame qui descend de sa voiture, qu'on me dit attendez, je vais vous aider parce que je vois que le fauteuil est resté coincé dans les cailloux, ça fait mal. Ça fait mal. Donc effectivement, je pense qu'à un moment, il va falloir réellement se donner les moyens de pouvoir faire sortir les gens de chez eux. Dès qu'on regarde la télé, on voit les publicités avec « ne mangez pas trop gras », etc. « Faites du sport », donnez les moyens à tout le monde de faire du sport.
Emmanuel, vous, Mathéo, pratiquez du sport à la maison ou c'était pas du tout possible, ne serait-ce que par rapport à votre logement ?
C'est pas possible, mais c'est même pas une question de logement ou quoi, c'est que un enfant autiste comme Mathéo, il a besoin de se dépenser énormément, mais qu'il ne supporte pas la frustration, donc lui imposer des règles pour un sport venant de ses parents, c'est impossible. Enfin, clairement, là, ça se passe bien parce que il fait du sport à l'extérieur de la maison. Déjà, ça le permet, il en fait avec des enfants qui n'ont pas de problème de santé, donc déjà, ça lui permet de se sociabiliser. Bon, il a l'habitude avec l'école, mais en plus de ça, Mathéo est dans l'imitation beaucoup, donc ça lui permet de continuer à se sociabiliser avec la société dans laquelle il vit, donc et il est encadré, les encadrants, ils ont été extrêmement ouverts d'esprit et ils ont pas de problème avec. Par contre, eux, ils respectent les règles parce qu'ils voient que les autres les respectent. À la maison, c'est impossible, ce serait ingérable.
Alors, le manque de structure d'accueil peut parfois amener à la création d'un club. C'est le cas de la section Cécifoot de l'AS Violaine. Les explications de Michael Derancy, coach de la section Cécifoot de l'AS Violaine.
C'était pas du hasard, mais ça s'est arrivé un peu par hasard, si. Après avoir pu découvrir le Cécifoot personnellement, grâce à un ami, en fait, hein, sur la métropole lilloise, étant éducateur à Violaine et étant responsable sportif et éducatif au niveau des jeunes, il me paraissait intéressant dans notre projet éducatif de pouvoir sensibiliser les enfants au monde du handisport, au monde du handicap. Et puis comme j'ai moi-même découvert le Cécifoot, je voulais le faire découvrir aux enfants, aux joueurs, à leurs parents, aux éducateurs, aux dirigeants. Donc on a organisé en avril 2014 une sensibilisation au Cécifoot. Donc on avait fait venir des joueurs de l'équipe de France, le sélectionneur. Donc ils étaient six, il y avait six personnes ce week-end-là. Et ils nous ont fait découvrir le Cécifoot un petit peu plus en profondeur. Et puis ce jour-là, on a eu la visite d'Alan, qui à l'époque avait 16 ans. Et il est venu sur cette découverte. Et pour lui, c'était une découverte également et une surprise aussi de ses parents. Donc il est venu découvrir, on a fait connaissance avec lui. Et forcément, c'est un jeune qui voulait faire du sport. Il y a beaucoup de portes qui étaient fermées pour lui, parce que aucune association, aucun sport ne pouvait l'accueillir dans le secteur. Donc au départ, on a réfléchi pour Alan de l'accompagner au moins dans les démarches de trouver un club pour pouvoir faire du Cécifoot. Donc au départ, on avait pris des contacts avec des clubs de la région parisienne. Et puis de fil en aiguille, on a réfléchi un peu plus. Et puis on a eu un deuxième contact avec Cyril, qui habitait à Lens. Qui est Cyril Léturgier, et qui avait lui déjà une expérience de Cécifoot parce qu'il avait déjà joué dans d'autres clubs, notamment à Saint-Mandé, donc en région parisienne. Et puis, quand on a eu ces deux joueurs, on a dit allez, on se lance. On va pas les envoyer à Paris parce que c'est des charges d'entraînement, des charges de transport, etc. Donc pourquoi ne pas les accueillir nous ici à proximité et leur proposer quelque chose.
Le handicap aujourd'hui.
Alors, quelques petites précisions suite à cet extrait que vous venez d'entendre. Sachez que la section Cécifoot de la SULN a connu de nombreuses évolutions, collaborant notamment faute de joueurs et de structures avec le club d'Anderlecht en Belgique, notamment avant donc d'opérer intégralement sous la bannière de la SULN. Aujourd'hui, le club dépend du Racing, enfin la section Cécifoot, pardon, dépend du Racing Club de Lens et espère ainsi obtenir plus de visibilité. Ainsi, Arnaud Pouille, directeur général du Racing Club de Lens, réagissant à l'accueil de la section Cécifoot au sein de son club, déclarait, je cite, le Racing souhaite ainsi agir durablement et favoriser, chaque fois que cela est possible, l'accessibilité à la pratique de notre sport, le football. La pratique est spécifique et l'encadrement par conséquent spécialisé. La section Cécifoot a donc été intégrée dans son intégralité à notre secteur amateur. Elle est composée de joueurs, guides, entraîneurs et dirigeants qui pourront bénéficier de nos infrastructures à la Gaillette. Ils pourront aussi porter fièrement les couleurs sang et or et défendront notre blason comme il se doit. Grâce à la notoriété du Racing, un coup de projecteur sera donné sur cette discipline, encore méconnue. Les informations sur cette équipe seront visibles sur le site officiel. Une chose est sûre, c'est que les joueurs ont énormément de mérite et véhiculent beaucoup de valeurs. Ils ont notre respect tant ils parviennent à repousser physiquement et mentalement leurs limites malgré leur handicap. Fin de citation. De son côté, Michael Dorancy, que vous avez entendu dans ce reportage, qui est le responsable et le coach de cette section Cécifoot, explique les avantages de cette affiliation. Je le cite également. L'association a ajouté dans ses statuts une phrase qui permet au club du Racing Club de Lens de prendre une affiliation à la Fédération Française Handisport. En effet, on ne joue pas avec la même licence en Handisport. Cette affiliation va nous permettre de récupérer des licences pour nos joueurs. On ne signe pas de convention de partenariat, c'est simplement l'affiliation qui nous permet d'être le Racing Club de Lens, et ce, pour une durée indéterminée. Et ces réactions nous viennent d'un communiqué de presse du Racing Club de Lens.
Alors, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette création du club de Cécifoot de cette sous-structure du
club
Racing
de foot de Lens.
Voilà. Sur aussi le manque de structure accueillante.
Alors, au niveau sport adapté, je peux vous parler un petit peu de nos clubs. Nous, la majeure partie de nos clubs dans le Pas-de-Calais sont rattachés à des établissements médico-sociaux, en lien très étroit, ne serait-ce que par la fourniture des véhicules, l'encadrement aussi de personnel. Quelques clubs ont été créés totalement en indépendance par des parents pour leurs enfants et accueillent des sportifs extérieurs. Et puis on a aussi de plus en plus, et c'est une tendance qui va aller en augmentant, à ouvrir des sections sport adaptées dans les clubs valides. C'est-à-dire des clubs qui créent une section sport adaptée. Bon, là, il y a quelques difficultés parce qu'il faut que le personnel qui va accueillir nos sportifs soit formé aussi à l'accueil de la personne handicapée.
Alors justement, cette formation, elle peut prendre combien de temps ?
Alors, il y a des formations très rapides qui sont faites par le SDOS, qui sont gratuites, qui permettent de sensibiliser les gens donc à l'accueil soit d'une personne relevant du handisport, soit une personne relevant du sport adapté. Et après, vous avez des formations qualifiantes, alors là, qui entrent peut-être dans un plan de formation, etc., enfin, avec des financements possibles. Mais le SDOS propose des formations gratuites à direction, justement, des personnes qui veulent accueillir des personnes en situation de handicap.
Alors, Emmanuel Joly, comment s'est passé justement pour votre fils Matteo et son club de Kempo ? Je sais que vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais du point de vue de l'accueil et surtout de l'accompagnement.
Alors, au niveau de l'accueil, en fait, on cherchait un sport pour Matteo parce que ça, on trouvait ça sain et on avait discuté un petit peu avec son éducatrice du Cézanne de savoir ce qu'on pouvait faire. Donc, on avait évoqué plusieurs possibilités, dont les arts martiaux. Donc, on a un club d'arts martiaux qui est à Bully, donc le club de Kempo. On les a contactés, on leur a demandé si c'était un problème le fait que Matteo soit autiste, du fait qu'il était propre pour eux, non. On devait faire un ou deux essais. Il a fait ses deux essais et il est totalement intégré. Il suit la tendance tranquillement. Il se défoule et il est dans un cadre très sympa, et ça se passe bien. Il gère très bien ses crises de frustration, pour le peu qu'il en ait, parce qu'en fait, il en a pas tant que ça. Il est un petit peu dispersé de temps en temps, mais sinon, ça se passe très bien.
Et alors, pour vous, Mathias, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver un club pour vous accueillir ?
Vous me demandez si c'est le premier club que je fais ?
Personnellement, à part celui-là, je faisais de l'athlétisme à Bruxelles-Buissière dans un club beaucoup plus grand, mmh. avec différents entraîneurs.
Oui.
Mais ça ne m'a pas non plus déplu de faire ça aussi, de recommencer l'expérience au stade Roland-Courrier à Liévin, hein, quoi.
Et comment sont les coachs, les entraîneurs avec vous?
Bah, j'ai connu 4 entraîneurs différents.
Oui.
Mais ça ne m'a pas posé trop de problèmes.
Christelle, est-ce que ça a été compliqué aussi pour Mathias, justement, de trouver un club, ou est-ce que c'est relativement simple aujourd'hui?
Non, on ne va pas dire que c'est relativement simple. Après, nous, comme on est en structure, ben, Mathias est accompagné. Donc, nous, on fait aussi, l'équipe est partie dans les démarches de Mathias, ben, de lui rechercher les clubs. Donc, on n'hésite pas à contacter les différents clubs, de les rencontrer, de rencontrer Mathias aussi. Et puis ensuite, bon, on a réussi à trouver le club à Liévin, où Mathias fait de l'athlétisme. Donc, il a été très, très bien accueilli. Nous, pareil. Et puis Mathias, à l'heure d'aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'il fait de l'athlétisme dans ce club. Et Mathias, il est arrivé à un sprinter presque de niveau régional.
Non. Fort heureusement que je ne suis pas pro.
Non, tu n'es pas pro. Mais je veux dire, tu pourrais participer à des compétitions qui sont de ton niveau, parce que tu as quand même un bon niveau. Tu as réussi à t'intégrer là-bas avec le club sportif, avec les entraîneurs et avec les différentes personnes extérieures qui viennent faire de l'athlétisme aussi.
Ce n'est pas l'idée que je recherche. Je préfère en faire tant que ça me plaît.
Que ça reste, une détente, un loisir?
Ouais, un agrément si on veut, ouais.
D'accord.
Parce que si c'est pro, je ne trouverai pas ça vraiment plaisant. Non.
D'accord. Alors, on en revient finalement à ce que disait Nicolas Marfil. Il y a des gens qui ont envie de faire du sport de compétition et d'autres qui ont envie pour lequel ça reste un plaisir, effectivement. Lorsque vous contactez ces clubs, que ce soit pour Mathias ou pour d'autres résidents, est-ce que les réactions restent assez naturelles, ou est-ce qu'il y a des hésitations, des freins de la part des clubs et des interlocuteurs, en tout cas, que vous avez à l'idée d'accueillir une personne en situation de handicap mental?
Bah oui, parce que quand on parle déjà de personnes en situation de handicap, déjà le mot handicap fait peur. Donc les gens connaissent pas forcément les personnes handicapées.
En d'autres mots, la réaction naturelle, c'est la peur.
Ben... Oui, faut être honnête. De nos jours, quand on parle, on a une personne en situation de handicap, elle souhaite faire un sport, ce serait possible dans votre club ou des choses comme ça. C'est, ah oui, mais quel handicap? Est-ce qu'il va pouvoir rester seul? Est-ce qu'il faut un accompagnement? Donc nous, on est là pour l'aider, on accompagne, et on voit Mathias se rend seul à l'athlétisme. Donc au départ, effectivement, on l'a accompagné, on a été présent pendant les 2-3 premiers entraînements pour que lui prenne confiance en lui aussi. Et maintenant, Mathias, on le dépose à l'entraînement et on le récupère après ses 2 heures d'entraînement. Mais c'est vrai que l'handicap aujourd'hui fait encore peur malgré tout aux gens.
Nicolas Merfil, est-ce que vous-même, vous avez eu des difficultés d'intégration dans un club quand vous vous êtes retrouvé en situation de handicap?
Alors, pour ma part, non. J'ai pas fait de recherche de club, en fait. C'est un ami qui était en handisport à Villeneuve-d'Ascq qui m'a convié à venir m'entraîner avec lui, car il savait que j'étais chez moi sans bouger et que ça devenait complexe. Et donc arrivé à la CVA, ça a été, on va dire que c'est eux qui m'ont demandé de venir. C'est pas moi qui ai demandé de venir à travers. Le collègue qui était déjà en place, à travers les 3 athlètes qui avaient déjà formé la section d'e-sport, et l'entraîneur qui était ravi de me voir arriver, avec qui je m'entends très bien. Alors, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, après ça peut paraître difficile, parce que on baisse le budget, donc comment vont être formés les futurs encadrants si demain des clubs décidaient de mettre des athlètes handi ou autres dans leur structure. Je pense que au niveau du sport, quand on baisse le budget, les derniers qui vont en pâtir, ça va être nous. Ça va être nous, par rapport à cette médiatisation, par rapport à l'évolution qu'on fait du handisport. Et je pense que s'ils revoient pas leur copie, ça va être difficile de pouvoir intégrer toutes les autres personnes, et aussi de dire à un club, si, prenez un handisport, vous allez voir, c'est quelqu'un de normal. on n'est pas handicapé, on est handicapable. Sinon, on ne ferait pas la démarche d'y aller.
Julien ?
Oui, alors justement, et là je vais peut-être me tourner vers Emmanuel Joly, qu'est-ce qui a guidé le choix de votre club ? Est-ce que vous aviez eu des échos comme quoi ce club de Kempo à Billy-les-Mines avait accueilli peut-être par le passé des enfants en situation de handicap ou pas du tout ? Et de manière plus large, est-ce qu'il y a des critères, des labels, tout ce qui pourrait permettre d'identifier un club comme accueillant et bien accueillant des personnes en situation de handicap ? Là, je vais peut-être vous laisser répondre tout d'abord, Emmanuel Joly.
Pour notre part, en fait, on les a appelés. En fait, on a pris un contact téléphonique. On n'avait aucune idée de, on n'avait pas connaissance de club qui accueillait des enfants handicapés. Donc, quand on s'est fixé à peu près sur le sport auquel on aurait voulu mettre Mathéo, on les a contactés. Ils nous ont posé des questions sur le handicap de Mathéo. Ils ont dit, bah écoutez, on va faire un essai. Voilà, ça s'est passé comme ça, aussi simplement. Mais il n'y a aucune communication. Enfin, en tout cas, sur Bully, moi, j'ai pas vu de communication sur des clubs qui accueillaient des handicapés en particulier. Donc, je sais même pas si ça existe.
D'accord.
Alors, on va se retrouver eh bien d'ici quelques minutes, à partir de 15h, hein, pour la seconde partie de cette émission. On va faire une petite pause musicale avec Grand Corps Malade et Anna Kova, et le titre « Espoir adapté » sur Radio Plus.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
I've been trying to let it go, been trying to free my soul. But all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows. My bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance, I'll breathe.
Trouver un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres.